Alors, ce matin, on fait un peu un retour sur Libération 21, quelques témoignages. S'il y en a qui vous êtes ici ce matin en visite et que vous aimeriez avoir le livre « Doux et humble de cœur » qui parle de Jésus, son amour pour les pécheurs et les affligés, il nous en reste encore des copies. Alors, au comptoir à café dans le hall d'entrée, là, si vous aimeriez avoir un livre, venez me voir à la fin, je vais être là. Et ça m'a fait plaisir de vous en remettre un gratuitement. C'est un très bon livre, une très bonne lecture qu'on a entrepris en tant qu'Église. On en a distribué plusieurs centaines de copies. On est très heureux de cela. Et on a pu parcourir à travers les semaines, entre autres dans les groupes maisons, même ici un groupe à l'Église se réunit le mardi soir, et aussi les dimanches matins, donc cette thématique là, du cœur de Dieu. Qui Dieu est vraiment? Qu'est-ce qu'il a vraiment à cœur? Son cœur, il ressemble à quoi? On a plusieurs caractéristiques de Dieu, mais c'est quoi le penchant de son cœur? Et là, on voit son amour, sa compassion, sa grâce, son intérêt pour nous, les pécheurs et les affligés. Et c'est vraiment un livre qui nous aide à saisir toutes ces vérités-là et cette ampleur-là. Donc, ce matin, on a des témoignages. On va avoir un micro. S'il y en a qui aimeraient donner un petit témoignage live, là, court, concis, mais quelque chose qui vous a particulièrement touché, soit à travers les messages du dimanche, les 5 dimanches qu'on a eus, ou encore le livre lui-même, les partages que vous avez eus dans vos groupes, ça va être une belle occasion de le faire. Pour briser la glace, j'en ai quelques-uns que j'ai reçus, et voici celui de Linda Gallo. Elle dit ceci. « Plus je connais le Seigneur Jésus, plus je suis émerveillé, ébloui et plus je l'aime. Ce qui a touché mon cœur dernièrement, c'est à quel point il était ému de compassion. Et là, mon désir de lui ressembler est de plus en plus grand. Je trouvais que je manquais de compassion. Je n'étais pas ému de compassion comme lui. » Ce n'est pas une question d'émotion, mais de réelle compassion profonde jusqu'aux entrailles. Je lui ai alors demandé de m'amener à avoir un cœur de compassion. Et là, elle dit, ces 2 dernières années ont été les plus difficiles de toute ma vie. L'annonce d'un cancer, l'opération, la chimio, déménagement, problème avec la vente de notre maison qui n'en finissent pas, fatigue extrême, séparation et j'en passe. Tout s'enchaînait sans arrêt avec tout ce qui m'amenait à vivre, avec tout ce que ça m'amenait à vivre. Même si je remettais tout dans les mains du Seigneur, puis un jour, j'apprends que j'ai une possible récidive de cancer. Tout récemment, j'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'il permettait ça comme si c'était pas assez. Et là, l'Esprit de Dieu m'a simplement dit, c'est la réponse à ta prière. Tu m'as demandé un cœur de compassion, comme moi. C'est seulement à travers les épreuves que je peux t'amener à avoir ce cœur de compassion. Et là, il m'a rappelé le commentaire d'une sœur qui me connaît depuis plusieurs années, qui me disait qu'elle trouvait justement que j'avais plus de compassion qu'avant. Le Seigneur me confirmait l'œuvre de transformation qu'il faisait en moi. Je loue l'Éternel, notre Dieu, pour ses épreuves qui lui permettent de me façonner à la ressemblance de Jésus. Je le loue aussi pour sa fidélité à ses promesses, car continuellement, à travers toutes ses épreuves, il me soutient et me fortifie. Et je remercie aussi les frères et sœurs qui m'ont soutenu dans la prière. Et là, il cite Lamentations 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et dans Ésaïe 41, 10, ce verset m'a soutenu tout au long de mes épreuves. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, et je te soutiens de ma droite triomphante. Amen.
Amen.
Amen. Ce que Dieu fait dans la vie d'une personne, même à travers des épreuves quand même énormes. Est-ce qu'il y a un petit témoignage qui s'en vient? Ça s'en vient, vous préparez ça, je vous en donne un autre. Vous savez, pendant toute la série de Libération 21, et quelques dimanches avant ça aussi, pendant l'année, et même l'année passée, on a l'Église Grâce et Vérité, et aussi l'Assemblée chrétienne de Saint-Michel-des-Saints qui suivent nos prédications en direct. Et voici un petit témoignage qui m'ont envoyé. Quel contraste, celle de Jésus, entre l'image d'un Poutine, un leader fort, mais qui n'est pas humble et qui fait sauter des vies sans cligner des yeux au bout de sa table de marbre, et celle de Jésus, un leader doux et humble, qui donne sa vie pour des pécheurs et des affligés. Les messages nous ont montré cette ferme humilité de laquelle Jésus nous aime. J'ai pleuré en regardant la femme au puits et j'ai pensé à notre Dieu qui n'éteint pas le lumignon qui fume et qui ne casse pas le roseau froissé et qui est déjà plié. Matthieu 12, 20. Parole vivante le traduit comme ceci. Il ne cassera pas le roseau à demi brisé, il se gardera d'éteindre la lampe dont la mèche fume encore. Et pour montrer la douceur et la compassion de Dieu. Témoignage qui s'en vient? Un autre. Ensuite, je vous donne l'occasion. En haut, en bas, on va un micro qui va aller à votre place et vous allez pouvoir donner un petit témoignage que Dieu a mis sur votre cœur. Voici, honnêtement, les mots me manquent pour exprimer adéquatement ce que les explications de ce livre, Doux et humble de cœur, font pour mon être intérieur et pour ma relation avec Dieu. De recevoir la douceur et l'humilité de Jésus, mon sauveur, mon grand frère, m'édifie et me donne le goût de m'approcher de lui encore plus. C'est une grâce énorme pour moi d'avoir la foi et de pouvoir continuer de cheminer vers le ciel, encouragé par cette vérité biblique du cœur de Jésus, humble et doux. J'ai beaucoup apprécié la manière que l'auteur relie l'Ancien et le Nouveau Testament, comment il est allé lier ensemble les descriptions de Dieu à celles de Jésus. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est doux et humble de cœur. Amen. Amen. Voici quelques témoignages. Est-ce que quelqu'un dans la salle, juste lever la main, si quelqu'un aimerait ça, donner un petit mot de témoignage? Oui, Pierre, alors, est-ce qu'on peut avoir le micro? Ah, Louis-Philippe, oui.
Ah, ouais, OK. Bon, ben moi, je me suis préparé, comme tu fais, pour pas être trop long non plus.
C'est bien.
Premièrement, on veut remercier le Seigneur, parce que mon épouse et moi, on a eu la COVID, comme bien d'autres de l'Assemblée, OK? ce qui m'a touché particulièrement ça dans la lecture du livre qu'on fait là, régulièrement là, chaque semaine, ok, c'est quelque chose au début du livre où ce que l'auteur nous dit que on connaît beaucoup de doctrines de décrets de Dieu, ok, mais on connaît peu le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu, c'est spécial. C'est un peu comme connaître le cœur de son épouse. OK? Moi, je connais beaucoup de personnes, mais je connais le cœur de mon épouse plus que le cœur de toute autre personne. Puis un enfant de Dieu, un chrétien, doit connaître le cœur de Christ, son cœur. Comment il pense? Puis ce livre-là nous amène justement ça à avoir une vision ça du cœur de Christ. Moi, ce qui m'a frappé particulièrement, c'est que Dieu partage notre douleur quand nous souffrons. Il ressent notre souffrance comme si elle était sienne. OK? Fait non seulement ça, OK, il sait les épreuves, les souffrances qu'on peut vivre, OK, mais il va au-delà de ça. OK? Il les partage. C'est fort, ça. Il partage. Comment Dieu peut réussir à faire ça? OK? de nous faire ressentir, OK, que nos souffrances ne lui sont pas indifférentes, puis que lui-ci souffre en même temps que nous. Ben, c'est sa nature humaine. Sa nature humaine le pousse à s'intéresser pleinement à nos problèmes. La raison pour laquelle Jésus est d'une si grande solidarité avec nous, c'est que le chemin difficile que nous parcourons ne nous est pas unique. Jésus l'a lui-même parcouru. Il est venu comme un homme ordinaire parmi les hommes ordinaires. Voyez-vous, ça donne une raison, la véritable raison de la venue de Jésus en chair et en os sur la terre. Non seulement pour accomplir le plan de Dieu qui était de mourir à la croix et de ressusciter, mais également ça, de compatir à ce que nous autres, on peut vivre sur la terre. Puis il y a un petit mot souvent ça qui revient ça dans les propos dans le livre, c'est ce qu'on pense puis nos intuitions. Notre intuition nous pousse à croire que plus notre vie devient difficile, plus nous sommes seuls, plus nous nous enfonçons dans la souffrance, plus notre sentiment d'isolement s'en trouve accru. Ça c'est notre intuition qui pense ça. Plus que notre vie devient difficile, plus nous sommes seuls. Plus nous nous enfonçons dans la souffrance, plus notre sentiment d'isolement s'en trouve accru. Or, la Bible nous reprend ce sujet. Notre souffrance n'excelle jamais celle que Dieu partage avec nous. Nous ne sommes jamais seuls.
Amen.
Notre souffrance n'excelle jamais celle que Dieu partage avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Et vous? C'est ça le véritable christianisme. Amen. C'est Dieu avec nous.
Merci Pierre. Amen. 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 C'est pas oui. Amen. Le véritable christianisme. J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut tenter de partager quelque chose qui vous a touché par rapport à ce temps de Libération 21, la lecture du livre, prédication? Personne d'autre? OK. Alors, j'ai un... Vous savez, pendant la Libération 21, on a eu la situation en Ukraine. Et puis, pendant qu'on était dans Libération 21, que ça se passait justement en Ukraine, les horreurs qu'on voit constamment à la télévision qui nous sont rapportées, j'ai eu un appel le lundi matin, donc, et puis quelqu'un qui écoutait nos enseignements, qui nous suit dans le fond sur Internet, même s'il n'est pas de Trois-Rivières, a eu à cœur de faire quelque chose pour ce qui se passait en Ukraine. Puis là, il voulait donner, mais il voulait absolument le faire à travers l'Église locale. Et là, donc, ça l'a initié finalement ce qu'on est en train de faire, ce qu'on encourage chacun et chacune de faire à l'Église, ceux qui veulent, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi qui sont venues me voir puis qui ont exprimé leur désir de faire quelque chose et au moins de donner quelque chose pour que ça puisse aller là. En plus, on avait deux familles missionnaires, une qu'on soutient depuis un certain nombre d'années, qu'on connaît très bien, les Jutras. Et donc, on était content de savoir qu'il y avait une famille en Pologne qui était justement capable d'aider et d'accueillir des réfugiés. Et là, il y a les Taylor aussi qui sont là-bas aussi et qu'ils faisaient la même chose. Donc là, ça s'est encheminé tranquillement et finalement, on a ouvert un fonds, comme vous savez ici, à l'église. Et puis là, présentement, on dépasse, savez-vous quoi, dans notre fonds? On dépasse les 20 000 $ juste de notre église. Et là, vous savez, on est 500 églises et plus, un peu plus que 500 au Canada, de notre mouvement d'église évangélique baptiste. Donc, il y en a un peu partout, beaucoup en Ontario, entre autres, et dans les autres provinces au Canada. Et savez-vous comment est-ce qu'on a amassé à date? J'ai vérifié ce matin. La modique somme. De 1 062 000 $. Yes! Wow! Et je vous dis, ça monte constamment. Maintenant, ils ont des besoins particuliers. Ils accueillent à peu près 500 personnes juste pour des repas qu'ils nourrissent à tous les jours. Donc, ils avaient des besoins immenses. Ils estiment leurs besoins financiers à 8 000 quelques dollars par jour. Alors, vous voyez comment ça va vite, là, les besoins, parce qu'ils ont besoin de tout là, là-bas quand ils arrivent, les réfugiés. Et là, les équipes travaillent ensemble. Nos missionnaires travaillent avec les églises locales de la Pologne et les réseaux qu'ils avaient déjà développés. Donc, il y a des camps, par exemple, d'été qui accueillent maintenant des réfugiés. Et là, il y a des soupes, il y a des repas, il y a de l'aide, du transport, il y a des billets qui sont achetés et tout ça. Alors, autrement dit, les sous là sont très bien utilisés. Et là, ce que je veux que vous entendiez, et là, si 1 million vous touche et nous rend fiers d'être chrétiens évangéliques et d'être dans une belle famille à travers le Canada, et là, on voit que l'unité ensemble fait une différence, bien là, j'aimerais que vous écoutiez le petit extrait qui s'en vient de notre missionnaire Pierre Jutras, qui est rencontré par Luc Tétrault, qui est justement à Guelph, qui s'occupe du ministère de Femmes internationales, et notre directeur ici au Québec, qui est Louis Bourque. Donc, ils ont eu une petite entrevue récemment. 5 minutes, mais ça vaut son pesant d'or.
Physique des gens vont augmenter.
Hey, salut, mon Louis. Comment ça va, le Québécois, là-bas?
Ah, je suis tellement content.
Ah oui.
Je suis tellement content de parler. Ça, c'est fait.
À droite, ah, c'est Pierre Jutras.
C'est l'équipe. Ah. Ceux qui déjà m'écrivent en Pologne pour recevoir les Ukrainiens, c'est tous des Québécois. Hein, là? Ah, c'est quelque chose. Hein? Je leur écris, je dis oui, préparez-vous pour recevoir avec l'amour de Christ les Ukrainiens, puis les accepter dans nos familles. Puis je peux te dire, Louis, là, leur témoignage de foi vont vous encourager, vont vous apporter un témoignage de la puissance, puis la confiance, puis la protection de Dieu dans leur vie, comme vous avez jamais entendu. Fait que ça va vous encourager comme moi, ça m'encourage. Je suis capable de fonctionner chaque jour parce que je vois qu'est-ce qu'ils sont avec le Seigneur, comment qu'ils prient. Il arrive ici des fois des lignes, ils ont entendu des 10, 15, 20, 30 heures dans des trains, puis on leur prépare de la nourriture ici à l'église où on est. Puis la première réaction, c'est pas le manger, là. C'est comme Jésus, hein. Il lève les bras puis il chante à Dieu pendant une demi-heure pour remercier Dieu qu'ils sont en vie ici à l'église de Roubiachouf, par exemple.
C'est magnifique.
Wow. Roubiachouf. Oui, c'est quelque chose. Dieu fait des miracles dans une petite ville comme Bethléem. Roubiachouf. Wow. Who knows where is the... Qui sait où ce que c'est? Il y a personne qui sait où ce que c'est. C'est une petite ville, c'est la ville la plus éloignée en Europe de l'Est, la plus proche de l'Ukraine. Une ville que personne connaît, une ville même que personne n'est capable de prononcer. Gros vieux chouf. Puis c'est là que Dieu fait des miracles pour sauver des vies de l'Ukraine. Ces gens-là ici, les pasteurs. Une petite église de 30 personnes ici, tu vois en arrière. Il y a 30 personnes dans cette église-là, puis ils reçoivent des réfugiés à la tonne, puis ils les redirigent. Il les aime, il les nourrit, puis que Dieu les bénisse, puis on va les rediriger vers un autre endroit. Fait qu'il y a une autre église aussi à Zamosh qui font la même chose. Fait qu'ils vont vous encourager par leur témoignage de foi puis de la protection de Dieu. Comment ils ont survécu une fuite à partir de Kharkov, hein, qui est dans l'est de la Pologne, à travers les bombes, les avions, les bombardiers, les gens qui tirent autour d'eux autres. Puis se sont rendus ici vivants. Ça va vous faire pleurer, Louis. Ça me fait pleurer chaque jour. J'en pleure chaque jour la nuit. Hein, mais ils vont vous faire pleurer par leurs histoires de souffrance. Qu'est-ce qu'ils ont passé au travers? En tout cas, tu vas voir, Louis, là, ça va amener un réveil. Ça nous amène déjà un réveil dans les deux églises ici. Il y a 30 personnes ici, puis il y a 50 personnes à Zamosh, puis ils s'occupent des plus grandes vagues de réfugiés ici en Pologne, au nom du Seigneur Jésus. Je te dis, c'est un miracle de Dieu. Comment tu as vu on vient d'acheter une vanne aujourd'hui. Il n'y avait pas de place pour les apporter. Une petite histoire bien courte, je ne veux pas prendre trop de temps pour... J'étais ici à la gare de Roubiachouf. Il y a des trains. Il y a trop de gens qui arrivent par train à Przemysl, dans le sud. Maintenant, à Varsovie. Mais il y avait encore trop de monde qui attendent. Il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent à le voir. Puis il fait moins 15, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Les enfants meurent déjà de faim. La première cause de mort, c'est le froid. Après ça, c'est le manque d'eau. Puis maintenant, c'est le rationnement de nourriture. C'est pour ça qu'il y a des bombes. Il y a des missiles qui sont tombés à 100 km de chez nous aussi pour arrêter l'aide que les Polonais veulent apporter à ces gens-là. C'est un massacre de la part de ce Poutine-là qui est complètement fou. Mais il y a des trains qui arrivaient ici 4 par jour, de 2000 personnes chaque, 8000 personnes dans la ville ici qui arrivaient. Puis nous, on était là avec des soupes. J'étais juste une fois, là, mais les gars ils faisaient ça chaque jour. Ils amènent de la soupe, des sandwichs, puis là, ils leur donnent ça aux gens au nom du Seigneur Jésus. Hey, c'est Auschwitz. J'étais allé là, puis c'est Auschwitz. On n'est pas capable de parler, mais on leur donne le sourire. Bienvenue en Pologne. Que Dieu vous bénisse. Puis là, en tout cas, c'est quelque chose. Hein?
Lorsqu'ils accueillent les réfugiés, ils leur disent « Bienvenue en Pologne, vous êtes maintenant en sécurité.
» Amen. Merci. Bienvenue en Pologne, vous êtes maintenant en sécurité.
J'ai de la misère à dire ça. Quand tu vois la misère, c'est plus qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis, ils traversent les
frontières.
Tu peux l'arrêter.
Merci. Alors, c'est quelque chose, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose. Et de voir comment Dieu est en train de se servir de petites églises dans une ville inconnue qui n'avait pas d'histoire et qui tout à coup devient des églises qui sont très importantes pour l'œuvre de Dieu et annoncer l'Évangile, c'est vraiment quelque chose. Et on peut vraiment remercier le Seigneur pour ce témoignage-là. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment touchant. Là, j'aurais besoin de la manette. Quelqu'un a la manette pour en changer le PowerPoint? Apparemment, c'était pas vous autres qui l'aviez, non? Ah, OK. Ils m'ont dit que c'était vous autres qui l'aviez. Alors, ça, je pensais, mais c'est correct, là. Ils vont me l'emmener. C'est bon. Alors, Marc 14, 21 à 28. L'évangile de Marc. On sait qu'il y a 4 évangiles. Et les 4 évangiles, naturellement, nous rapporte la vie de Jésus, son ministère. Et là, ce matin, bien, on veut se concentrer sur le début d'un temps nouveau. Connaissez-vous la chanson de René Claude? Le début d'un temps nouveau. Ça a sorti dans les années 70. Vous savez, les années 60, 70, puis un peu au début des années 80, là, on appelait ça comment au Québec? La Révolution tranquille. Donc, la chanson venait dans ce contexte-là de la Révolution tranquille. C'était le début d'un temps nouveau au Québec. Et là, je vous lirai pas la chanson au complet, mais voici les paroles du début. C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. À cause de la Révolution tranquille, donc le Québec remettait ça, tout ça à zéro. Quoique, vous comprenez que c'est pas vrai, mais c'est quand même la chanson ce qu'elle exprime. Et là, ça dit, la moitié des gens n'ont pas 30 ans. Ça a-tu changé? Je pense que ça a changé un petit peu, hein? Peut-être parce que le nombre de naissances s'est effondré. C'est le début d'un temps nouveau. Et là, les femmes sont libres de faire l'amour comme elles veulent. Les hommes travaillent presque plus. Et le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Vous voyez, c'était ça, là, l'espèce de mouvement hippie, peace and love, et puis la vie est belle et tout ça. Et là, on se ramasse 40-50 ans plus tard, puis on a-tu avancé? Certains vont dire, oh, on fait des gros avancements au Québec. Mais mes amis, c'est pas ce que les statistiques nous montrent. À tellement d'égards, tellement de niveaux, au niveau des relations, au niveau des enfants, des familles, des problèmes de santé mentale et toutes sortes de choses, et ainsi de suite. Donc, c'est pas ça le début d'un temps nouveau. C'est la résurrection de Christ qui inaugure vraiment ce temps nouveau. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Et dans un sens, on pourrait dire, c'était peut-être l'espérance des Québécois reflétée par cette chanson de René Claude. Alors, lorsque Jésus était avec ses disciples, il leur Il leur a parlé d'un temps nouveau qui allait commencer très bientôt et grâce à lui. Et là, je vais vous lire Marc 14, 21 à 28. Ça dit ceci, et là c'est Jésus, c'est ses paroles à lui, il s'adresse à ses disciples. « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme, en parlant de Judas, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. » Et en passant, on va justement célébrer le repas du Seigneur, juste comme après le message, que ça va bien s'introduire ou s'enchaîner avec le message, et on va terminer avec la chorale aussi dans la présence de Dieu. En vérité, Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trouverez tous une occasion de chute. » Donc, ils allaient tous l'abandonner, même si la semaine passée, si vous vous rappelez, Pierre qui avait eu l'audace de dire, « Jamais, peut-être les autres vont t'abandonner, mais jamais moi. » Et là, on connaît la suite de l'histoire. Lui aussi l'a abandonné. Alors, tous ont été une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » Mais, et là il termine avec ça, « Mais, après ma résurrection, » donc là il leur annonce qu'il va ressusciter, « Je vous précéderai en Galilée. » Et voici ce qu'un auteur a écrit, c'est un auteur anglais de l'Angleterre, il s'appelle N.T. Wright, c'est aussi un théologien, mais il a dit ceci, « Pâques a été le jour où la révolution a commencé. » Ça, c'est la vraie révolution. La résurrection de Christ a déclenché une révolte contre l'ancien ordre des choses, un renversement d'un monde brisé, gouverné par la mort et tous ses effets destructeurs. Maintenant, nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc, Jésus, c'est le précurseur, c'est le premier. Et nous, on attend aussi cette résurrection des morts et la vie du monde à venir. Il continue en disant, le plus grand implique le plus petit. Et tous les autres problèmes sont bien pâles en comparaison. Ils disparaîtront lorsque la mort sera anéantie. Donc, tous les problèmes, tout ce qui semble être épouvantable, toutes les choses qu'on voit qui nous horrifient et nous scandalisent, ils vont tous disparaître lorsque la mort sera anéantie. Comme l'a dit l'apôtre Paul, la création tout entière gémit et souffre alors que nous attendons avec impatience la rédemption de notre corps. Romains 8, 22, 23. Donc, la création tout entière attend que nos corps soient restaurés. Elle est en attente, comme nous sommes en attente. Mais la création va être restaurée après nous et non pas avant nous. Donc, la résurrection d'entre les morts doit arriver en premier pour qu'ensuite le reste soit restauré. Alors, tout est devenu nouveau grâce à la résurrection. Entre autres, on a eu un nouveau cœur. Ézéchiel 36, 26, ce qui n'existait pas avant. Mais grâce à Jésus, sa mort et sa résurrection, il nous offre maintenant la possibilité par la nouvelle naissance, justement, d'avoir un nouveau cœur. Comme il dit, un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Ensuite, on a aussi un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu. Tout à coup, de mort qu'on était, maintenant on a la vie de Dieu en nous à cause de la présence de l'Esprit. Et justement, on a une nouvelle force spirituelle. Éphésiens 1, 19 et 20, Jésus dit, vous serez pas seul, je vais être avec vous, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il va être en vous et il va faire toute la différence. Parce que il vient de Dieu. Et là, il va pouvoir agir en nous, à l'intérieur de nous, en nous énergisant et nous donnant la volonté et la force de faire la volonté de Dieu, justement. Quatrièmement, une nouvelle position. Éphésiens 2, 5 et 6 parle justement qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Présentement, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel, en position, on est là. Et un jour, on va être littéralement là. Mais en attendant, on est là en position. On a déjà cet avantage-là. C'est incroyable de pouvoir avoir cette position en Jésus-Christ. Ça s'arrête pas là. On a aussi un nouveau nom, Apocalypse 3:12. Ça s'arrête pas là. On a aussi un nouveau cantique qu'on va chanter dans Apocalypse 5, 9 à 10. Et qui va diriger quand on va chanter ce nouveau cantique? C'est qui? C'est la chorale Arc-en-ciel de Trois-Rivières. Yes! 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 Amen! Et si Dieu le veut, je ferai partie de la chorale Arc-en-ciel. Il va m'aider avec ma voix et mon dynamisme pour en être digne. Septième, on va voir aussi, il y a une nouvelle famille que l'on a dans Éphésiens 2, 19. Et là, on est, comme il dit, on n'est plus des étrangers, on n'est pas des gens du dehors, on n'est pas des immigrants, on est citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. C'est merveilleux. On a aussi une nouvelle espérance, et ça vaut quelque chose. À travers tout ce qu'on vit, là, toutes les situations qui se passent, ainsi de suite, comme ça dit, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas Dieu, puis ils n'ont pas d'espérance. C'est effroyable de passer à travers ce qu'on vit présentement dans notre société, puis ça, on dirait que ça va de plus en plus vite, et c'est de plus en plus épouvantable, mais on a cette espérance, qu'elle est joyeuse même, il dit ici que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, dans 2 Thessaloniciens 2:16, nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une joyeuse, excellente espérance. Gloire à Dieu. Ça s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi? Bien, on a une nouvelle passion. Éphésiens 2:10, ça nous dit qu'on n'était pas sauvés par les œuvres, mais qu'on était sauvés pour faire de bonnes œuvres. Comme on a vu là en Pologne, c'est-tu pas une belle œuvre, ça, de participer à ça, nous, comme Église? On n'est pas là sur place, mais on peut être là. On prie aussi que Dieu intervienne, que Dieu fasse des miracles, que Dieu touche des vies, qu'il y ait des gens qui soient sauvés à cause de ces situations-là épouvantables qui se passent. Et Dieu est capable, et Dieu agit. Et là, on a entendu, il y a des miracles à chaque jour qui se passent là-bas. Il y a des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Il y a des louanges qui se montent vers Dieu. Et gloire à Dieu pour ça. Et ça, c'est notre passion maintenant, servir le Seigneur. Pratiquer les œuvres qu'il nous a préparées pour nous d'avance. Une nouvelle vie, Romains 6, 4. Donc oui, nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc quand lui était enseveli, nous aussi on était ensevelis avec lui. Puis là, il exprime l'idée par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, et de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, on a cette possibilité-là de marcher maintenant dans une nouvelle direction, avec une nouvelle passion, avec des valeurs qui reflètent cette nouvelle vie-là qu'on a en Christ, avec un désir, avec une volonté nouvelle. C'est incroyable ce que Dieu fait en nous par son Saint-Esprit et par cette vie nouvelle qu'il nous a donnée et qui est aussi la vie éternelle. N'en-tu encore? De deux autres. Un nouveau régime, vous vous en rappelez, on en a parlé quand on a regardé Romains 7 ensemble. Donc, on n'est plus sous l'ancien régime de la loi, ce régime qui nous emmenait simplement à être esclaves de la loi. Non, on est sous le nouveau régime et c'est le nouveau régime de l'Esprit. Alors ça, c'est encore là une bénédiction pour nous d'être sous ce nouveau régime-là qui est celui de la grâce, celui de l'Esprit. Et pour terminer, un nouveau départ. Et on a vu ça dimanche passé avec notre frère André. C'est exactement ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Ben, on a vu pour guérir le premier message, pour pardonner le deuxième, pour libérer le troisième, pour éclairer le quatrième et pour proclamer une année de grâce, le cinquième. Et c'était justement cette idée d'avoir un nouveau départ, d'avoir cette vie maintenant pour Dieu. Et Dieu nous offre ce nouveau départ. N'est-ce pas merveilleux? Et là, y en aurais-tu d'autres? Oui. Là, il y en a au moins 12, il fallait que je m'arrête à quelque part, parce que là, sinon, on aurait été ici trop longtemps, puis je voulais pas non plus, mais vous comprenez, là, ça, là, c'est tout vrai. Peut-être qu'on le vit pas, qu'on le savoure pas, qu'on en a pas toujours, comme la nouvelle position, on sait pas des fois qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est toutes des vérités, c'est à nous, là, c'est comme déposer dans notre compte en banque, OK? Tant mieux si on peut aller le chercher dans notre quotidien maintenant, puis vivre ces réalités-là, ces vérités-là, dans notre quotidien aujourd'hui. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la force de Dieu, et ainsi de suite. Mais c'est là, c'est à nous, pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie comme sauveur personnel. Et un jour, bien naturellement, ça va être pleinement, on pourrait dire, on va en jouir pleinement, et sans aucun obstacle ou restriction. En conclusion, cherchez-vous le début d'un vrai temps nouveau? Désirez-vous un vrai changement dans votre vie? Ben, ce que Pâques et même toute Libération 21 voulait faire ressortir, c'est que Jésus est la réponse à toutes vos aspirations. C'est lui qui est capable de combler nos cœurs. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a rien d'autre qui existe dans ce monde. Mais Jésus peut le faire et il veut le faire. Et là, pour débuter ce temps nouveau dans votre vie, bien, c'est pas compliqué. Il y a des petites affaires qui sont importantes, mais qui sont très importantes, donc qui sont petites, qui deviennent grosses dans un sens. La première, c'est qu'on doit premièrement quoi? La toute première chose, c'est ceci. Reconnaître votre besoin de Dieu. C'est dommage que ça soit pas évident, ça. Et c'est pour ça que des situations difficiles, comme on a entendu des témoignages, des épreuves, ou comme on voit en Ukraine et ce qui se passe en Pologne avec les réfugiés, bien souvent, ces circonstances-là nous ramènent au fondement qu'on est vulnérable et qu'on n'est pas éternel et qu'on est à la merci de plein d'affaires. Et là, qu'est-ce qu'on a? À quoi on peut s'accrocher? Et là, c'est là qu'on peut réaliser notre besoin de Dieu. Alors ça, c'est la première chose. Reconnaître que j'ai besoin de Dieu. La deuxième, qui est très importante aussi, si je reconnais mon besoin de Dieu, si je comprends que Dieu m'aime, qu'il me cherche, qu'il veut avoir une relation avec moi et qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix, porter mes péchés, bien le deuxième, c'est de lui demander pardon. De faire comme ce larron quand il était crucifié avec Jésus, et qui tout à coup, après s'être moqué tout comme l'autre, et avoir, un peu sorti son amertume ou quoi que ce soit comme ça, à un moment donné, il s'est arrêté, il était saisi, et là, il a réfléchi, puis là, à un moment donné, il s'est rendu compte que Jésus, il est pas comme les autres, il est pas comme eux, entre autres. Il mérite pas de mourir sur la croix. Et là, il y a un royaume, et là, il s'est tourné vers Jésus, puis il lui a dit, moi et mon chum, on mérite d'être sur une croix. Donc, il a reconnu son besoin. On mérite d'être ici. On mérite de subir cette mort-là horrible. Mais toi, rien fait comme ça. Et là, il lui a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton paradis. Alors là, il s'est tourné vers Jésus et il lui a demandé son aide. Il lui a demandé de venir faire la différence pour lui. Parce que lui, il n'y arriverait pas par lui-même. Il savait qu'il avait manqué son coup. Il savait que c'était pas une bonne personne, comme on entend souvent. Non, il savait, moi, je suis foutu. Mais toi, tu pourrais. Veux-tu? Je te le demande. Alors, il lui demandait de lui pardonner ses péchés pour qu'il puisse l'emmener avec lui dans son paradis. Et Jésus lui a dit quoi? Non, tu as manqué ton coup. Non, tu as fait des choses trop graves. Non, il est trop tard. Non, il lui a dit, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Et là, c'est là le troisième aspect, c'est lui faire entièrement confiance. Et là, pour illustrer cet aspect-là très important, parce que, vous voyez, je pourrais reconnaître mon besoin de Dieu, je pourrais savoir que j'ai besoin de pardonner, mais là, si je fais pas confiance à Jésus, si je crois pas qu'il est capable de m'emmener au ciel avec lui, de me pardonner tous mes péchés, de me donner la vie éternelle, de me mettre sous ce nouveau départ, cette nouvelle vie maintenant en lui, ben là, la foi, c'est quoi, dans le fond? La foi, c'est un peu comme la main qui va saisir ce que Dieu nous offre. Et là, je le prends. Et je l'ai pour moi. Mais là, ici, l'histoire de Blondin. Connaissez-vous cette histoire-là de Blondin? Levez la main ceux qui savent. OK, alors il y en a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas. C'est une histoire vraie, là. Alors, voici une illustration de cet homme qui était un funambule. Donc, il marchait comme ça sur une corde. Et là, ici, il est à Niagara Falls, au-dessus des chutes du Niagara. C'est un exploit. Il est le premier à avoir fait cela. Après ça, il y en a eu d'autres qui l'ont tenté, qui l'ont fait. Mais lui, il est le premier. Puis ça, c'est un article qui est paru dans la revue Maclean. Et ça l'a paru, dans le fond, en 1949. Donc, 90 ans après l'exploit. Et là, ici, c'est comme un tableau. C'est comme quelqu'un qui a fait une peinture qu'eux autres ils ont pris puis ont mis dans leur revue, pour revenir sur cette histoire-là, 90 ans plus tard. Et là, ça dit ceci comme contexte que je voudrais juste vous donner. À l'été 1859, Blondin, qui est un Français d'origine, Blondin, c'était pas son vrai nom, c'était à cause de ses cheveux blonds, qu'à un moment donné, c'est un surnom qui a été donné, puis même à un moment donné, il l'appelait le « The Great Blondin », parce qu'en anglais, là, il prononce le Blondin comme « Blondin », « Blondin ». Alors, le grand Blondin, voyez, alors, à l'été 1859, il a invité le monde entier à être témoin de son exceptionnel talent d'équilibriste, de funambule. Il a entrepris la traversée des chutes Niagara sur une corde et sans aucun filet de sécurité. Et là, il va le faire plusieurs fois la traversée en effectuant toutes sortes de manœuvres les plus dangereuses les unes des autres. Voilà le texte. Cependant, son tour de force qui allait le rendre célèbre, il le réservait pour plus tard. Il allait traverser les chutes avec un homme sur son dos, comme la peinture le montrait. Donc, l'article qui a paru en 1949 dit ceci. Le scepticisme à l'égard de son projet de transporter un homme sur son dos au-dessus des chutes Niagara était répandu. Autrement dit, personne ne croyait que c'était possible. Les annonces promettant une grosse somme d'argent à tout homme qui se porterait volontaire n'ont fait qu'accroître le doute. Ceux qui s'étaient laissés tenter changeaient d'idée après avoir jeté un coup d'œil à la corde suspendue au-dessus d'un véritable enfer des eaux. Alors, vous voyez, là, ils arrivent sur place, ils regardent ça, ils disent, « Oh, non, je pense que je n'irai pas. Je pense que, non, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc, traverser sur le dos de Blondin, oubliez ça. » Et là, c'est là l'invitation de Blondin. Blondin lui-même, après avoir entrepris avec succès la traversée avec une brouette, s'était approché de la foule en criant, « Messieurs, un volontaire que je puisse traverser, je le porte sur mon dos. » Mais personne ne semblait disposé à accepter son offre généreuse. Maintenant, voici ce que Blondin a dit à son gérant. Vous allez comprendre pourquoi. Puis, son gérant, Harry Colcord, accepta de le faire. Mais avant de commencer, Blondin lui dit, « Fais-moi entièrement confiance et reste calme tout au long de la traversée. » Ça l'avait à peu près 1100 pieds, là, la traversée. Comme si tu étais un poids mort sur mon dos. Si je perds l'équilibre ou je trébuche, en aucun cas tu dois essayer de faire quelque chose pour rétablir la situation. Spécial, hein? Et voici la réaction de Concorde. « J'ai décidé de suivre ses conseils », a-t-il écrit dans une lettre à un ami. « Mon premier frisson s'est produit lorsque nous avons commencé à survoler les arbres dont la cime était hérissée loin sous nous, entre les falaises et la rivière. J'ai senti mon cœur remonter dans ma gorge quand nous avons commencé à marcher sur la corde. Alors, moi, j'ai sauté en parachute, OK? Et je vous le dis, là, j'étais dans l'avion, ça allait bien. Là, il m'attache à celui qui va être ma planche de salut, là. Celui qui sait que c'est quoi, sauter en parachute. Je suis attaché à lui, je suis en avant de lui, pas sur son dos, mais en avant de lui. Et là, il m'emmène, puis là, il rouvre la porte de l'avion, puis là, je suis suspendu dans les airs, seulement attaché à lui, et je regarde en bas. Et là, je regarde ma fille. Là, vous dites, le cœur nous remonte dans la gorge, parce que c'est haut, et là, tu dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai accepté de faire ça? Et là, au grand plaisir des spectateurs, une grande foule, les deux hommes parvinrent sains et saufs de l'autre côté. Et en plus, ils sont revenus, imaginez-vous. Ils partent du côté des États-Unis, ils s'en vont du côté du Canada, mais là, il faut qu'ils retournent. Alors, ils l'ont fait deux fois, aller-retour. Une fois, dans le fond, aller-retour. Alors, ils sont revenus sains et saufs. Et pour Colcord, le trajet de 45 minutes avait semblé durer une éternité. Oh, là, on n'a pas la... OK. Il manque l'image de... Parce qu'on le voyait, le fameux blondin avec colcorde sur son dos, mais là, elle n'apparaît pas. Anyway, tout ça pour terminer avec ceci. Oui, la résurrection de Jésus est le vrai début d'un temps nouveau. Et la résurrection des croyants d'entre les morts, au retour de Christ, va en être l'apogée. Et là, chers amis, ce matin, Dieu vous invite à venir à lui et à placer votre confiance en son Fils pour avoir vous aussi cette espérance de la vie éternelle et de la résurrection d'entre les morts. Et là, Jésus vous demande d'embarquer sur son dos et de lui faire confiance. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à le laisser complètement? Vous n'avez pas de filet de sécurité, c'est Jésus ou sinon il n'y a rien d'autre. C'est lui qui va m'emmener à bon port. C'est lui qui peut pardonner mes péchés. C'est lui qui peut m'emmener dans la présence du Père. Et c'est lui qui peut faire toute la différence dans ma vie. Voulez-vous de Jésus dans votre vie? Ça, c'est l'invitation de ce matin avec Pâques.